spirituel, donc on va le poursuivre. Hein. C'est une série de 3 messages, donc là c'est le deuxième. Alors ce matin, exceptionnellement, parce qu'on est en plein combat spirituel, donc il y a un problème de clé USB, donc il n'y aura pas de projection de dessin, mais c'est pas un problème. Là, j'ai réfléchi, j'ai prié, je vais vous faire part de ce que j'ai lu, de mon expérience, et puis des choses que j'ai pu noter sur le combat spirituel. Donc ce matin, ce sont les armes de Dieu pour le chrétien. Ce que Dieu offre aux chrétiens pour se battre et pour combattre dans la lutte spirituelle. Donc voilà, on aborde le deuxième volet du combat spirituel, à savoir toutes les armes que Dieu met à notre disposition. Alors, à notre disposition, pourquoi ? Pour lutter contre les forces du mal qui veulent ralentir ou même anéantir notre activité spirituelle et même notre relation avec Dieu. Hein ? Un bref rappel nous permet de mesurer le véritable enjeu qui va se dérouler sous nos yeux. D'ailleurs, vous savez, dans la Bible, je rappelais des passages bibliques, Hébreux chapitre 10, verset 38. Mon juste vivra par quoi ? Ouais, oui, tout le monde le sait. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça, c'est important aussi. Hein. 4 fois dans la Bible, on retrouve cette affirmation puissante. Le juste vivra par la foi. Hein, ça, c'est le témoignage de ce qu'on a entendu ce matin avec Jean Jaurès. Alors, ça montre vraiment l'importance qu'a la foi dans nos vies chrétiennes. Alors, on voit que la foi est le moteur du chrétien. C'est vraiment son ADN. C'est elle qui lui donne la vie en Christ et qui l'accroche à Dieu. Sans elle, l'âme du Seigneur ne prend aucun plaisir en lui. La vérité, c'est que nous plaisons à Dieu lorsque nous avons foi en lui. Et ça, c'est vraiment écrit dans Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de plaire et d'être agréable à Dieu. Impossible. Alors, dès lors, vous comprenez combien la foi va être l'enjeu d'une lutte importante entre, d'une part, le chrétien, qui va mettre tout en œuvre pour conserver cette foi, et puis d'autre part, les forces du mal qui vont tout faire pour la lui enlever. Donc là, c'est un combat important. Là, je voudrais introduire un petit passage sur la physique, la mathématique, la philosophie. Blaise Pascal. Blaise Pascal, qui est un homme que vous devez connaître, un homme important, un homme français, un écrivain français du XVIIe siècle, il évoquait dans ses pensées, parues après sa mort, la misère de l'homme sans Dieu. Alors, il invitait ses lecteurs à plutôt miser sur l'existence de Dieu dans ce qu'il a appelé le pari de Pascal. Alors, c'est quoi le pari de Pascal ? Alors, Pascal, en scientifique respectueux, il examine la question de l'existence de Dieu et il s'interroge. Alors, il dit, il y a 2 solutions, hein. Ou Dieu existe, ou Dieu n'existe pas. Bon, jusque-là, on est d'accord. Alors, il dit, maintenant, est-ce que la raison peut nous aider dans cette réflexion ? Ben, il dit pas vraiment, hein. Parce que, en fait, rien ne prouve que Dieu existe, mais rien ne prouve que Dieu n'existe pas. Ben, jusque-là, on est toujours d'accord. Alors, dit Pascal, posons-nous la question essentielle, c'est celle du gain et de la perte. Ben, si Dieu existe, si nous y croyons, ben, c'est super, parce que s'il existe, eh ben, nous gagnons, parce que nous avons à la fin la vie éternelle. Par contre, si Dieu n'existe pas, ben, on ne paiera rien d'avoir cru, hein, parce que s'il n'y a rien, ben, de toute façon, on ne paiera rien, quoi. Et Pascal, dans sa conclusion, il dit, ben, il faut croire sans hésiter, hein, les gars, allez-y, hein, il faut croire. Et à travers ce pari, cette pensée d'un joueur avisé, on voit ce qu'est l'approche intellectuelle de Dieu, le risque de s'installer dans une foi d'opportunité, hein, puisqu'elle part d'une pensée égoïste, égocentrique, la recherche de son intérêt plutôt que celle de Dieu. Eh bien, la véritable foi, celle que Dieu veut et attend, c'est au contraire une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cette foi que Dieu aime et que nous devons sauvegarder. Alors ça veut dire quoi tout ça, tout ce que je vous ai dit là? En quoi ça consiste? C'est quoi une ferme assurance des choses qu'on espère? Eh bien, les chrétiens sont bien loin d'être des gens hallucinés qui n'ont pas les pieds sur terre et qui croient parce qu'il faut croire. Hein, un petit peu comme Pascal, il faut croire, ben alors je crois. En réalité, leur foi est une tranquille confiance en un Dieu bien réel, qu'ils ont rencontré dans leur cœur, au plus profond de leur cœur, un Dieu puissant, rempli d'amour, proche d'eux, bien qu'invisible. Et dans ce cas, ils ont une merveilleuse assurance en ses promesses. Dans la parole inspirée de Dieu, ils possèdent la conviction profonde qu'ils sont enfants de Dieu. Ils savent qu'ils sont sauvés, qu'ils ont la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est les choses, l'assurance des choses qu'on espère. Mais il y a aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous croyons que non seulement Dieu nous a créés, même si on ne le voit pas, mais encore qu'il a tout créé, même si on peut en douter. Nous le voyons à travers les perfections invisibles de la nature. Il a tout créé avec une précision incroyable. Savez-vous que si l'angle d'inclinaison de la Terre variait d'un degré, on ne pourrait pas exister, on ne pourrait même pas être là ce matin? Tout dans ce monde a été créé parfait, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Toutes ces perfections sont pour nous une claire démonstration que Dieu est à l'origine de toute chose, qu'il y a une puissance de réflexion derrière tout ce que nous voyons. Alors si certains veulent y voir le hasard, eh bien il faut savoir que le hasard créateur est aussi plausible que de dire, par exemple, suite à l'explosion d'un magasin de pièces mécaniques, eh bien devant vous il va se créer une voiture. Voilà, c'est ça le hasard. Albert Einstein, le célèbre physicien, il écrivait « Le hasard, c'est la présence incognito de Dieu dans l'univers ». Et pourtant il savait de quoi il parlait lui. La foi en Dieu, en Christ, est donc ce bien précieux que le chrétien doit conserver à tout prix, et donc faire prospérer. Pour ce faire, il devra combattre contre les forces spirituelles mauvaises dont nous avons parlé le 28 avril, lors du premier acte, et qui vont tout faire pour essayer de nous enlever cette assurance. Alors, vous le savez, hein, depuis la fois dernière, même des fois bien avant, puisque vous avez de l'expérience, l'ennemi n'est ni un novice, ni un plaisantin. Il est connu pour être malin, rusé. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. En réalité, il a mis son intelligence brillante au service exclusif du mal. Il a plus d'un tour dans son sac pour tenter de nous faire chuter, mais surtout de nous séparer de Dieu, comme le lion, en chasse, essaye d'isoler une bête du troupeau pour mieux la dévorer. Alors, il est bon de rappeler quand même que Satan et sa cohorte de démons partent au combat avec trois handicaps sérieux. Et ça, c'est important hein, quand on va lutter contre quelqu'un. Le premier de ces handicaps, pour les ennemis, ils sont toujours soumis à Dieu et ne peuvent rien sans son autorisation. Voilà. Ils ne peuvent rien faire sans l'autorisation de Dieu. Et c'est marqué dans Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Voilà, je te mets des limites. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Le deuxième handicap, tant que nous sommes dans la foi au Fils de Dieu, eh bien, il se heurte à un mur spirituel inébranlable. 1 Jean 4,4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, les antéchrists. » Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis le troisième handicap, eh bien, c'est qu'en fait, ils sont définitivement condamnés au feu éternel. Et ils ont peu de temps pour nous attaquer. Matthieu 24, 41, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors, les armes de Dieu contre les ruses du diable. Dans le dernier chapitre de sa lettre aux Éphésiens, Paul nous révèle une grande vérité spirituelle. et ça je vous demande de la retenir parce que ça c'est vraiment important. Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires pour contrecarrer les ruses et les attaques de l'ennemi. Toutes les armes nécessaires. En préambule, l'apôtre Paul nous donne le conseil des conseils, le must absolu dans le combat spirituel contre l'ennemi, au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est dommage qu'il n'y a pas les dessins ce matin, mais je montrais le chrétien avec des racines profondes qui allait chercher dans le Seigneur vraiment sa force. Et si Paul nous donne ce conseil précieux, c'est qu'il sait pertinemment que nous, êtres humains, sommes bien inférieurs à la fois en force et en puissance à tous les anges déchus. C'est Hébreux 2,9. Par contre, il sait aussi que la force et la puissance suprême réside en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, par nos propres forces humaines, nous serions rapidement roulés dans la farine par Satan et écrasés par ses sbires, car disons-le tout net, nous ne faisons pas spirituellement le poids devant eux. C'est vrai. En disant « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante », eh bien l'apôtre Paul a forcément en ligne de mire les deux principes spirituels qu'il a lui-même décrits. Le premier, au Galates, chapitre 2, verset 20, il dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Voilà. Maintenant, Satan, quand il va affronter quelqu'un, il va affronter Christ, plus moi. Et au Romains 6, verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Dieu est le Tout-Puissant, la force et l'autorité de l'univers. Il n'y a rien au-dessus de lui, rien du tout. Si Christ vit réellement en moi par son Saint-Esprit, si je ne suis qu'une seule et même plante avec lui, et que mes racines vont puiser sa force, est-ce que je suis faible ? Ben non, je ne suis pas faible, je suis fort. Je suis fort. Frères, sœurs, j'ai beau être vraiment une très faible plante, vraiment peut-être la plante la plus faible qui existe, j'ai beau être petit, insignifiant, Dieu me dit « Ma grâce te suffit, Daniel, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Paul, qui lui a combattu le bon combat de la foi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Jésus-Christ repose sur moi. Alors, frères et sœurs, vous êtes peut-être des plantes faibles, des petites plantes, mais si vous êtes enracinés en Christ, vous êtes forts par la toute-puissance de Dieu. La première arme que va proposer Satan, moi je l'ai vécu, mais vous l'avez certainement vécu aussi, c'est la peur. Il fait peur. L'ennemi, pour nous faire perdre la confiance solide que nous avons en Dieu, va utiliser une arme redoutable qui peut mettre en péril la solidité de notre foi. Et en particulier, si nous avons la foi proposée par Blaise Pascal. L'ennemi peut nous effrayer de différentes façons, et nous en citerons trois ce matin. Et c'est des exemples bibliques. Le premier, par des êtres humains. C'est l'exemple de Deutéronome 1. Alors, souvenez-vous, après la sortie d'Égypte, Moïse et tout le peuple d'Israël arrivèrent à la montagne des Amoréens, en regard de la terre promise. La terre promise est devant eux. Moïse dit alors au peuple, « Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel ton Dieu. Ne crains point, ne t'effraie point. » Alors, le peuple, dans son ensemble, explora la vallée d'Escol et prit du fruit du pays en disant « Mais c'est vraiment un bon pays que l'Éternel nous donne. C'est vraiment chouette, quoi. » Mais lorsqu'ils virent les habitants du pays, ils furent effrayés et ne voulurent plus monter et furent rebelles, disant « Mais c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Nous paraissions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ce sont des géants. Ce sont des fils d'Anak. » Alors Moïse dit au peuple « Non mais attendez, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, comme il l'a fait depuis la sortie d'Égypte. Mais vous n'eûtes point confiance en l'Éternel. » Alors, vous voyez, l'ennemi, dans nos ministères, dans notre témoignage, dans l'évangélisation, dans nos vies quotidiennes, va chercher à nous effrayer par des persécutions de toutes sortes pour nous faire douter des promesses de Dieu. Vous voyez, moi qui suis devant vous, je suis un enfant de Dieu. N'en doutez pas. Et lorsque je prie, eh bien, je reçois des promesses de Dieu. Moi, quand j'étais jeune chrétien, par exemple, eh bien, j'ai vécu longtemps séparé de la femme que j'aimais. Et j'ai prié Dieu et je lui ai demandé à Dieu qu'elle devienne ma femme. Et alors, Dieu, il m'a fait une promesse. Parce que, franchement, il m'a fait une promesse double. C'est-à-dire que, par la Bible, il m'a dit dans Jérémie 31, 22, « L'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme cherchera l'homme. » Et puis, dans mon cœur, eh bien, j'ai reçu dans mon cœur l'assurance qu'elle deviendrait ma femme et qu'elle viendrait elle-même me chercher. Et pour me demander que je devienne son mari. Ça, c'était une promesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé autour de moi? Eh bien, dans ma vie quotidienne, l'ennemi m'a attaqué sur ma foi. Et il m'a attaqué d'une manière terrible. Vous savez, j'ai pleuré plusieurs fois. Wardia, elle est venue me voir un jour pour me dire « Tu ne seras jamais mon mari. » Quand vous prenez ça dans la figure, vous dites « Bah ouais, c'est vrai. Quoi, bah, Dieu dit une chose et puis il fait l'inverse. » Des frères de l'Église m'ont dit « Mais où c'est marqué dans la Bible que Wardia serait ta femme ?» C'est marqué dedans ?« Bah non, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ?»« Non, j'ai des convictions dans mon cœur. » »« Oui, tes convictions. D'accord. » Et puis je voyais des garçons tourner autour d'elle. Bon, alors ça, c'était terrible. Mais franchement, j'ai dû lutter contre les doutes qui envahissaient ma foi. Plusieurs fois, j'ai dû demander à Dieu, franchement, à genoux, qui me donne des encouragements. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, 3 ans plus tard, elle est venue me chercher. Elle m'a demandé d'être son mari. La promesse de Dieu a été tenue jusqu'au bout. Voilà. C'est pour ça, il faut toujours tenir ferme avec les promesses de Dieu. Tout ce qu'on voit autour, ce sont des attaques de l'ennemi. La deuxième chose, c'est par les événements. C'est l'exemple de Matthieu 8, versets 23 à 26. Jésus monta dans la barque avec ses disciples, et voici qu'il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, y dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Alors nous savons, depuis Job, chapitre 1, verset 16, que Satan peut manipuler aussi eh bien, les événements et les éléments. Tous les éléments de la nature pour terroriser. Jésus, lui, est tranquille, il est paisible, il est confiant en Dieu, car il sait que tout est soumis à Dieu. Eh bien, vous savez que dans les tempêtes de la vie, déclenchées par l'ennemi, eh bien, il faut savoir aussi prendre l'autorité que nous confère Jésus. Hein? Jésus, lui, calme la tempête, on peut aussi nous calmer les tempêtes. Alors, lorsque j'ai envisagé, par exemple, de présenter le combat spirituel à l'Église, moi, j'ai prévenu la famille Courtin. J'ai dit, il faut prier et nous protéger parce que je sais que nous allons être attaqués par l'ennemi. Ça n'a pas tardé, hein. Wardia s'est cassé le poignet. J'ai été blessé, moi, par un patient. Vous savez ce qui s'est passé le 28-4 dans cette église. Et pendant une semaine, j'ai été, comme jamais j'ai été malade et je n'ai pas pu aller au travail. Mais grâce à vos prières, eh bien, je continue. Parce que c'est vrai que le Seigneur m'a aussi montré des choses positives et son soutien. Et puis, aussi par les pensées et les paroles. Dans nos pensées, l'ennemi peut chercher à nous impressionner par, vous savez, cette curieuse petite voix qu'on entend dans sa tête et ses pensées. Par exemple, si tu témoignes, les gens vont se moquer de toi. Si tu évangélises, ben, ils vont te poser vraiment des sérieux problèmes. Hein. Si tu dis que tu es chrétien, mais ils vont complètement te rejeter, mon pauvre vieux. Cette drôle de petite voix est toujours négative. Elle n'a qu'un seul et unique but, nous faire peur afin de nous empêcher d'agir pour Dieu. Et puis par les paroles, c'est l'exemple de 2 Rois 18. Lorsque le roi d'Assyrie envoya devant Jérusalem une puissante armée dirigée par Rabshagé, ce dernier s'adressa au roi Ézéchias en ces mots. « Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse absolument point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant « L'Éternel nous délivrera ». Est-ce que les dieux des nations ont délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Mais non! Voilà. Est-ce que ton Dieu, il va te délivrer, toi? Est-ce qu'il va te faire du bien? Ben non. L'ennemi veut nous faire peur en nous faisant croire que Dieu ne peut pas nous délivrer et que l'on a tort de lui faire confiance, qu'il ne fera rien pour nous. Ben, il ne faut absolument pas écouter cette voix. Les flèches enflammées. Tout ceci correspond aux flèches enflammées du malin, Éphésiens 6, verset 16, qui ont pour but non seulement de faire mal, mais surtout de mettre le feu à notre belle confiance, notre belle assurance dans les promesses de Dieu. Alors, contre ça, nous avons une arme efficace et redoutable à opposer à l'ennemi. C'est le bouclier de la foi. La peur, vous savez, c'est une émotion normale. On n'a pas à avoir honte d'avoir peur. C'est une émotion qu'on ressent face à un danger, une vision effrayante ou une parole dure, accablante. Pourtant, cette émotion ne doit pas nous exposer aux flèches de l'ennemi qui ont pour but de nous abattre. Nous devons lui opposer le bouclier de la foi qui est une arme défensive vraiment puissante. Alors nous l'avons vu, la foi est une ferme assurance de notre part. C'est donc une démarche avant tout personnelle. Pour cela, moi je m'enracine dans une ferme confiance en Dieu, en connaissant sa parole. Est-ce que vous connaissez bien la parole de Dieu? Est-ce que vous avez déjà lu au moins une fois la Bible? Après, je pose la question et chacun répond dans son cœur. Hein. Romains 10, verset 17. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Moi, je pense qu'il y a trop de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu et puis qui n'arrivent pas à se fonder sur la parole. Connaissant la parole de Dieu, j'y découvre toutes ces promesses que je peux m'approprier. Psaume 119, 81, « J'espère en ta promesse ». Si je m'approprie les promesses de Dieu, je peux les dresser comme un bouclier devant l'archer ennemi et ainsi bloquer net ses flèches. Dieu est la force de chaque chrétien qui se confie en lui sincèrement. Psaume 5, verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Dans sa brutalité, l'ennemi va essayer d'attaquer notre belle identité chrétienne. Il ne lâche rien et se montre très persuasif pour faire chavirer notre foi. Tu crois vraiment que tu es sauvé? Vous croyez que vous êtes sauvé? Tu crois vraiment que tu es sauvé? Mais regarde-toi, tu es un chrétien imparfait. Tu crois que Dieu qui est saint et parfait est content de toi dans ce que tu fais tous les jours? Alors, vous savez que l'ennemi, il est fort habile et il essaye de nous amener sur un terrain plus favorable pour lui, celui des œuvres. Alors qu'en fait, nous sommes sauvés par la grâce. Et vous savez que ça marche. Ça marche parce qu'il nous culpabilise. Tu n'en fais pas assez pour Dieu. Tu es un piètre chrétien. Tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Et il réussit à nous culpabiliser. Et alors, nous multiplions les œuvres jusqu'à nous épuiser. Ou alors, eh bien, nous sommes complètement découragés. L'ennemi a compris qu'il ne peut pas efficacement nous culpabiliser sur la grâce. Alors, il se régale sur les œuvres. Le casque du salut, ça c'est aussi une arme importante du chrétien. Le casque protège la tête. Le salut, la grâce sont des valeurs spirituelles les plus importantes que nous possédons. Sans elles, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et en remettant en doute notre salut, l'ennemi cherche à atteindre le fondement de notre foi. Frères et sœurs, une seule réponse de fermeté à lui opposer, eh bien, chausser le casque du salut. Je suis sauvé, on n'y revient pas. On n'y revient pas. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pas par les œuvres, ça ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ne revenons pas sur le terrain des œuvres, c'est par la grâce. Frères, sœurs, l'ennemi dira encore, regarde, mais tu pèches encore, tu te mets encore en colère, tu as de mauvaises pensées. Comment peux-tu croire et te dire juste avec ça? Mais l'ennemi cherche à nous frapper au cœur. Il veut nous faire croire que le juste, c'est celui qui est parfait. Mais pas du tout. Qui ne pêche plus? Qui? Moi, je pêche le premier, hein. Je peux vous dire que je fais des péchés. Ce qui est impossible, tant que nous sommes dans ce corps, c'est impossible de ne plus pécher. Voilà. La cuirasse de la justice. La cuirasse protège le cœur de notre foi. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui l'avons reçu comme sauveur personnel et Seigneur de nos vies, nous pouvons proclamer tous ensemble, pour ceux qui le connaissent, 1 Corinthiens 6, 11, « J'ai été lavé, j'ai été sanctifié, j'ai été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » J'ai été lavé, j'ai été sanctifié, j'ai été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On n'y revient pas. Voilà. Acte 13, 39. Quiconque croit est justifié par lui, et si ça ne suffit pas, il y a encore Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà, qui nous accusera? En revêtant la cuirasse de la justice, en chaussant le casque du salut, nous affirmons clairement à l'ennemi que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons, que nous avons le Saint-Esprit. Et ça, c'est efficace dans le combat. Jean 1, 2, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, on a ce pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Et vous l'êtes. Amen. Vous l'êtes. D'accord. Donc, nous le sommes. L'ennemi est accusateur et menteur. Alors, il cumule ces deux défauts qu'il utilise pour tenter de faire tomber les enfants de Dieu. Accusateur, c'est celui qui désigne quelqu'un comme coupable. Alors, l'ennemi essaye de nous pousser à la faute, vous savez, pour mieux nous accuser devant Dieu. Et dans sa psychologie mauvaise, il pense que Dieu va se fâcher contre nous et nous punir. Il pense ça, Satan. En fait, il projette sur le divin ses mauvaises pensées, alors que Dieu est avant tout le Dieu de compassion. Ésaïe 55, verset 7, « Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. » Voilà, lui, Dieu, il va pardonner. Zacharie, alors on va passer au passage de Zacharie qui est vraiment exceptionnel et qui correspond à ce que nous on vit dans nos vies. Zacharie 3, verset 1 à 5. Dieu donne une prophétie au prophète Zacharie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Frères et sœurs, cette vision constitue une très belle image de ce qui se passe dans le quotidien de nos vies. La Bible nous éclaire sur le monde invisible qui nous entoure. Apocalypse 12, 10. Dieu donne une vision de la fin des temps. Il dit, il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Alors, de quoi Satan peut-il bien nous accuser devant Dieu? Jour et nuit, c'est beaucoup, hein? Certainement d'une foule de choses. Mais la parole nous donne quelques indices. Satan doit sans cesse rappeler à Dieu notre passé, qui nous sommes. Que nous sommes d'horribles pécheurs, des gens pas bien. Il rappelle nos fautes journalières et nos manquements quotidiens. Zacharie, par exemple, 3:3, Josué était couvert de vêtements sales. Certainement qu'il devait être pécheur. Il devait être, c'est quelqu'un de, comme nous, qui n'est pas meilleur que nous. Mais devant Dieu le Père se tient quelqu'un d'autre, Il y a Satan, il y a Dieu le Père, il y a Zacharie, mais il y a aussi quelqu'un d'autre. Il y a l'ange de l'Éternel. 1 Jean 2, versets 1 et 2. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. L'ange de l'Éternel, souvent dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Jésus, lui, a la légitimité et l'autorité pour nous défendre contre toutes les accusations de l'ennemi, car son sang, qui a coulé à la croix, nous a lavé de toutes nos fautes, toutes nos fautes. Et c'est ce que rappelle Jésus à l'ennemi, Zacharie 3, 2. « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » N'est-ce pas là un tison arraché au feu ? Frères et sœurs, Jésus rappelle à Satan que c'est Dieu qui nous a choisis et appelés, que c'est Dieu qui nous a retirés de ce monde pécheur, comme un tison qu'on retire du feu éternel. Il nous a retirés du feu, comme Zacharie. Puis Jésus donne le coup de grâce à Satan. Zacharie 3, versets 4 et 5, il dit « Ôtez-lui les vêtements sales », puis il dit à Josué « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête, et qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Jésus est clair, il parle à Satan en puissance et en vérité. Il lui rappelle qu'à la croix, nous avons été lavés, purifiés de nos péchés, qu'aujourd'hui nous sommes des créatures nouvelles, habitées par le Saint-Esprit, et que nous marchons pour et par la gloire de Dieu. La Bible fait mention d'une autre accusation que l'ennemi porte contre les enfants de Dieu. Job 1, versets 9 et 10. Satan dit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? » Hein ? Est-ce d'une manière désintéressée que Dominique craint Dieu ? Que Matthieu craint Dieu ? Est-ce que c'est d'une manière désintéressée ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains ? L'accusation de Satan est diablement subtile, hein, car elle ne s'attaque pas à l'œuvre salvatrice du Christ, mais à l'authenticité de notre foi. Est-ce une foi d'opportunité à la Blaise Pascal ou une foi réelle et profonde que nous avons ? La réponse à cette accusation, c'est hélas le feu de l'épreuve qui va devoir la révéler. Si notre foi est ferme, authentique, ou si elle est superficielle et intéressée. Et c'est pour ça que souvent on passe par des épreuves, pour que vraiment notre foi, elle soit bien fondée. Et qu'est-ce qu'elle révèle cette épreuve ? Eh bien Matthieu 7, 24-27, « Quiconque entend les paroles que je prononce, dit Jésus, et les met en pratique, foi authentique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur Jésus-Christ. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. » La force des différentes épreuves. Hein. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, pari de Pascal, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, vie religieuse. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Job, lui, n'est pas tombé, et nous, sur quoi avons-nous bâti notre maison, notre vie, notre foi, sur quoi ? Frères, sœurs, lui, l'ennemi, nous harcèle, nous accuse, nous fait souffrir, mais nous tenons bon dans les tempêtes de l'existence, car notre vie, notre maison est bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Paul, dans sa très belle lettre aux Romains, écrit Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » On souffre, on en bave ici. Hein. En français, de la ZUP, par exemple, ça donne « Aujourd'hui, on en bave un peu ici, mais avec Dieu, ça va le faire. » Là-haut, ça va être grave puissant. Voilà, c'est ça qu'on dirait. Hein, on ne dirait pas comme ça. Pour conclure, je rappellerai ces beaux passages de Paul qui donnent à nos vies de la vitamine spirituelle. Romains 8, 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la peur de l'ennemi, la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou les souffrances ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » On sait ce que c'est que d'être vainqueur. Ben, avec Nancy, pas trop. Mais on sait ce que c'est. Mais plus que vainqueur, c'est quoi ? Eh bien, nous sommes à 1000% vainqueurs de la peur et des souffrances par celui qui, par amour, a donné sa vie pour nous. Car j'ai l'assurance, j'espère que vous aussi, vous pourriez le dire aussi, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges déchus, ni les dominations démoniaques, ni les choses présentes, ce qu'on vit aujourd'hui, ni les choses à venir, notre futur, notre avenir, ni les puissances occultes, ni la hauteur, ni la profondeur, ce qui nous dépasse, ni aucune autre créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, après cela, il n'y a plus rien à dire. Hein. Donc, je ne dirai plus rien. Sinon, que je vous donne rendez-vous au dimanche 14 juillet pour la suite et fin du combat spirituel. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous propose de... Ben, tu voudrais, Brigitte, prier ? Et puis ensuite, on passera un moment de Sainte-Cène.